Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mercredi 19 mars. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RFI. C'est le coup d'envoi de notre session soirée de l'info, explications, analyses et reportages. Bien, c'est parti pour 3 heures d'actualité. Avec dans 10 minutes le décryptage, Véronique Rigolet ce soir, l'Amérique de Trump dans la poudrière proche orientale.
Oui, Donald Trump qui doit faire face à la dangereuse escalade des tensions à Gaza et en mer Rouge, après que son allié israélien a fait voler en éclats la trêve à Gaza. Et alors que les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, eh bien, promettent de leur côté de redoubler leurs attaques en soutien au peuple palestinien. L'Iran va-t-elle allumer la mèche de la poudrière? L'embrasement pourra-t-il être évité? On en parle avec nos deux invités, Quentin Muller, spécialiste de la péninsule arabique, et Adeline Mohamedi, chercheur en géopolitique.
Eh bien, à tout à l'heure. Juste après, ce sera le débat du jour, où l'on évoquera la justice des mineurs en France. La journée a été marquée par l'examen en commission du Sénat d'une proposition de loi de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, visant à durcir le traitement à l'égard des plus jeunes. Mais les mesures phares, comme par exemple la création de comparutions immédiates à l'image des majeurs ou des dérogations à l'excuse de minorité, eh bien ces mesures ont été supprimées. Le texte sera étudié la semaine prochaine. Il provoque une levée de boucliers. La justice protège-t-elle suffisamment les mineurs? Voilà la question que nous poserons. Où placer le curseur de la fermeté tout en respectant les droits des mineurs? Réponse à suivre donc dans 30 minutes sur RFI. Dans une heure, le grand journal du soir, le dossier consacré aux juges face aux décisions du président américain Donald Trump. 18h30, temps universel, Afrique Soir, la première édition. 19h10 TU, votre session reportage. Comme chaque soir pendant 50 minutes, Accent d'Europe sera ce soir en Suède pour évoquer le boycott des produits américains qui monte en puissance. Et puis le grand reportage ce soir, fraude en ligne et esclavage moderne. Enquête sur les usines de cybercriminalité de Birmanie.
RFI.
Voilà pour le programme, mais à 17h02, temps universel, c'est le journal de Paul Lancin-Spinelli. Bonsoir Paul.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir Paul, eh bien le ton rassurant de Donald Trump après son échange téléphonique avec Volodymyr Zelensky.
Oui, le président américain écrit sur son réseau social avoir eu un très bon appel d'environ une heure cet après-midi avec son homologue ukrainien. Nous sommes sur la bonne voie, tente-t-il de convaincre. Pourtant, plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky s'était montré sceptique à propos des résultats d'un autre coup de téléphone. Celui entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Hier, le président russe a accepté un cessez-le-feu uniquement concernant les infrastructures énergétiques, très loin donc de la proposition américaine de cesser le feu total de 30 jours. Pour Nicolas Tenzer, expert des questions stratégiques, Donald Trump n'a de toute façon aucun levier pour faire plier son homologue russe.
Je ne suis vraiment pas sûr que Trump voulait véritablement imposer quelque chose à Poutine, sinon de très formel, c'est-à-dire cette trêve très formelle. Et même là, il n'a pas réussi. Sur le fond, la réalité est que Poutine sait parfaitement que Trump se moque complètement de l'Ukraine. Il sait aussi qu'il y a entre les deux hommes une forme d'alignement idéologique, que les deux finalement se moquent de la réalité ukrainienne. Ils se moquent encore plus des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par la Russie en Ukraine. Il se moque du sort des enfants ukrainiens déportés en Russie. Il se moque du droit international, du droit des frontières. Trump, en fait, veut faire de l'affichage. Et ce qui est paradoxal, c'est que même sur l'affichage, en fait, Trump n'a pas réussi. Parce que tout simplement, il partait en position de faiblesse. Rappelez-vous ses coups de téléphone précédents, ses rencontres précédentes. Il avait déjà quasiment tout cédé à Vladimir Poutine. Et ça montre, on vient finalement, il n'y a aucune capacité chez Trump d'imposer quoi que ce soit.
Nicolas Tenzer interrogé par Andréane Mellard dans RFI Matin. Donald Trump qui menace aussi ce soir de complètement anéantir les Houthis, les rebelles yéménites alliés de l'Iran et du Hamas. Ont lancé cette nuit une quatrième attaque en quelques jours sur un porte-avions américain en mer Rouge. À Gaza justement, après les missiles et les drones, les blindés et les troupes israéliennes font de nouveau partie du paysage. L'armée israélienne a annoncé cet après-midi avoir lancé des opérations terrestres ciblées dans le centre et le sud de la bande terrestre. Depuis la reprise des frappes israéliennes il y a deux jours, 436 personnes au moins sont décédées. Selon la défense civile, un employé de l'ONU est mort aujourd'hui. Antonio Guterres, le chef des Nations Unies, réclame l'ouverture d'une enquête. L'Union africaine se félicite de l'engagement pour le dialogue des présidents congolais et rwandais. Réaction au lendemain de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. La médiation qatarienne assure que les deux chefs d'État ont réaffirmé leur soutien pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la RDC, où Kigali soutient le M23. Elle est soupçonnée d'avoir eu un rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. En France, la Cour d'appel de Paris examine cet après-midi une requête du parquet national antiterroriste pour la mise en examen d'Agathe Abiarimana, l'ex-première dame du Rwanda, qui est accusée d'entente en vue de commettre un génocide. Une enquête ouverte depuis la plainte déposée en 2007 par le collectif des partis civils pour le Rwanda. Les avocats de l'accusé estiment que ce dossier est vide, qu'il est politique et qu'un non-lieu devrait être prononcé, Guillaume Thibault.
À huis clos, la Cour d'appel a statué sur trois requêtes du ministère public. La mise en examen d'Agathe Abiarimana pour entente en vue de commettre un génocide, l'élargissement de l'enquête à compter du 1er mars 1994 et sur de nouvelles investigations. Pour le collectif des partis civils pour le Rwanda, présidé par Alain Gauthier, à l'origine en 2007 de la plainte contre l'ex-première dame, ces demandes sont fondamentales pour permettre à l'enquête de progresser.
Si le parquet demande une mise en examen, c'est qu'ils ont des éléments, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous, ce qui est important, ce sont les victimes, c'est pas le pouvoir à Kigali.
Placée sous le statut de témoin assisté en 2016, Agathe Abiarimana a été entendue à nouveau par le juge en décembre dernier. L'avocate de l'ex-première dame, maître Philippe Meillac, qui considère qu'un non-lieu aurait dû être prononcé en 2022 faute d'éléments, estime que les requêtes du ministère public permettent surtout de garder la procédure ouverte et donc de ne pas froisser les autorités rwandaises.
Ce dossier est désespérément vide. Tout ça, c'est un véritable coup de poker judiciaire, il n'y a pas d'autre mot. C'est de retarder le moment où ce non-lieu va être ordonné pour des considérations d'ordre politique.
Âgée de 82 ans, Agathe Abiarimana n'était pas présente à l'audience. La décision de la chambre de l'instruction, c'est la procédure, a été mise en délibéré.
Explication de Guillaume Thibault. Des rivières et une végétation dense nappée de pétrole en Équateur. Depuis la semaine dernière, l'équivalent de 200 000 barils se sont déversés dans la région d'Esmeraldas, au nord-ouest du pays, après la rupture d'un oléoduc provoqué par un glissement de terrain. Pour tenter de contenir la catastrophe, Petroéquador a annoncé hier réduire ses exportations d'hydrocarbures. Malgré cela, Fabricio Valencia reste très en colère contre la compagnie. Il est président de la communauté de Tchoukaplé, située tout près du point de rupture de l'infrastructure pétrolière.
Daña miles y cientos de hectáreas de cacao.
Cette fuite met en péril des milliers d'hectares de plantations de cacao. La pêche est aussi touchée. On ne peut plus pêcher de poissons d'eau douce ni de crevettes. La faune est impactée. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix abîmée. Les vapeurs d'hydrocarbures que nous respirons nous irritent les voies respiratoires. Nous avons des éruptions cutanées. La situation n'est pas sous contrôle. L'entreprise Petroéquador agit lentement. C'est la troisième fuite de pétrole dans la région en 8 ans. Et celle-là est la plus grave. Nous voulons que Petroéquador assume ses responsabilités. Ça n'a pas été le cas pour la fuite de 2018 ni pour celle de 2023. Nous avons gagné un procès concernant la fuite de 2018, mais seulement 6 personnes ont été indemnisées sur les milliers qui ont été victimes de ces fuites de pétrole.
Et puis Étienne de Crécy, le DJ, sort un nouvel album. Il s'appelle Warm Up, découverte signée José Marinho.
Nouvelle aventure musicale pour Étienne de Crécy, DJ et producteur de musique électronique français de 56 ans. Warm Up, c'est un disque plutôt pop et surtout entièrement chanté. Étienne de Crécy a d'abord été membre du duo Motorbass formé avec Philippe Sdar. Puis en solo, il a fait danser toute la planète en 1997 avec son album survitaminé Super Discount. Pour son nouveau projet, il réunit un bataillon d'interprètes hétéroclites, les pop stars britanniques Alexis Taylor du groupe Hot Chip et Damon Albarn de Blur, mais aussi des rappeurs chanteurs talentueux, presque tous inconnus au bataillon, comme Sugar Pete ou ici Frank Leon sur ce morceau au groove irrésistible. Avec 11 titres, Étienne de Crécy réussit l'exploit de réaliser un disque cohérent et chaleureux malgré la diversité musicale de ses invités.